Les documents liés à Jeffrey Epstein ont été diffusés en plusieurs vagues au fil des années. Divers éléments de procès civils et pénaux, notamment issus de la procédure Virginia Giuffre contre Ghislaine Maxwell, ont déjà été rendus publics, mentionnant un large éventail de personnalités, sans qu'il y ait pour autant d'accusations de crimes dirigés contre elle. En novembre 2025, le Congrès américain a adopté l'Epstein Files Transparency Act, obligeant le département de la justice à publier la plupart des dossiers fédéraux non classifiés relatifs aux enquêtes sur Epstein et Maxwell. Cela faisait suite à des pressions politiques, notamment à la suite du clash entre Elon Musk et Donald Trump en juin de l'année dernière. Signée par le président Trump, cette loi a conduit à une très vaste diffusion à partir du 30 janvier 2026. Plus de 3 millions de pages, environ 2000 vidéos et 180 000 images ont été mises en ligne par le Department of Justice. Ces documents comprennent des communications, des notes d'enquête, des listes de contacts et des éléments visuels liés aux investigations, mais de nombreux passages sont rédigés pour protéger la vie privée des victimes et des catégories sensibles. Bien que des références à des figures très en vue, des personnalités politiques, des milliardaires, etc., apparaissent dans ces fichiers, rien ou bien peu équivaut à une liste de clients judiciaires formels, et la publication a suscité et continue de susciter débats, controverses et critiques sur l'étendue réelle de la transparence obtenue. À ce stade, la diffusion est présentée comme la plus importante à ce jour, mais de nombreuses questions restent ouvertes. Alors, les Epstein Files enfin dévoilés, ont-ils fait beaucoup de bruit pour rien ou révèlent-ils les horreurs annoncées ? Bonjour, je suis Philippe Fabry, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le 6 février 2026, il est 21h37. J'ai un petit peu de retard, mais j'avais des réglages de dernière minute à faire. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. On va parler donc de cette ténébreuse affaire, pour reprendre le titre d'une nouvelle de Balzac. Je pense qu'on va aborder la question en plusieurs parties. On va commencer par reprendre un petit peu la personnalité de Jeffrey Epstein et les faits. On va commencer par son nom. Je rappelle qu'on dit Epstein parce que c'est un Américain. On dit Einstein parce qu'il était allemand. Mais normalement, pour Epstein ou pour Weinstein, on dit comme ça parce que c'est comme ça qu'on prononce ça aux Amériques. Ensuite, on essaiera de faire quelques parallèles historiques, de trouver, hein, comme on fait d'habitude, une espèce de point de repère pour savoir comment s'y retrouver, parce que souvent, quand les affaires sont très confuses, il faut essayer d'aller voir d'autres affaires comparables sur lesquelles on a plus de recul pour essayer de comprendre par quel bout il faut les prendre. Et j'essaierai de terminer par une analyse politique du phénomène, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus ce soir, mais on terminera avec ça une fois qu'on sera bien chaud. Et comme c'est le live hebdomadaire, cela se suivra par le live privé de nos chers souscripteurs, auxquels je répondrai à toutes leurs questions. Les questions qui auront été posées avant, c'est des questions dont j'y répondrai. Il y aura peut-être une question choir dans le lot. Et on aura une petite innovation technique ce soir, c'est que on aura le passage, il n'y aura pas deux liens, c'est-à-dire l'émission privée ne sera pas séparée. Normalement, on a désormais une petite fonctionnalité sur YouTube où j'activerai ça, ça lancera un petit compte à rebours et ça basculera tout seul. Voilà. Et en attendant, je commencerai à répondre aux questions de toute façon. Et dernière chose, avant de me lancer dans mes discussions, je tiens à vous demander de pousser et de pousser plus que jamais. Et cela que vous soyez en direct ou que vous voyez plus tard cette émission en replay. Parce que je me suis aperçu tout simplement qu'en fait on a des taux de pouces qui sont relativement bas, puisqu'on a 600 ou 700 pouces à chaque fois. Alors c'est déjà très gentil pour ceux qui les mettent. Le truc, c'est que, vous savez qu'on fait des promos en ce moment, on fait venir du monde. Il faut que vous puissiez être mis au courant par l'algorithme que les émissions sont là. Et donc, il faut que l'algorithme, en interne dans la chaîne, et pas seulement à l'extérieur, diffuse notre contenu. Et il le fait d'autant plus que les pouces sont mis. Donc, les pouces, c'est très très important, y compris parmi la diffusion au sein des abonnés. Donc, je vous demande de pousser notamment parce qu'il y a systématiquement, toujours pareil, hein, 4, 5, 6 000, ça dépend des émissions. Personne qui regarde les émissions du début à la fin. Je dis bien du début à la fin, pas juste des vues de vidéo, mais qui reste pendant tout le temps de la vidéo. Je suis désolé si vous restez du début à la toute fin de la vidéo, soit vous êtes un rage watcher très, très, très masochiste, soit c'est que vous avez bien aimé le contenu, à ce moment-là, mettez un pouce. Voilà. Il faudrait qu'on en ait un minimum 2-3 000 par émission pour que ça tourne normalement. Voilà, donc... extrêmement important de pousser, je ne dis pas juste comme ça, c'est vraiment le meilleur moyen, le plus facile, et c'est gratuit, encore une fois, ça vous demande juste d'appuyer une fois. Encore mieux si vous pouvez booster parce que vous êtes sur le téléphone, ça aide d'autant plus. Et autre chose aussi très importante, parce que je me souviens que je ne le dis jamais, et du coup, mes abonnés sont très en dessous des ratios habituels. D'habitude, les chaînes ont entre 10 et 30% des gens qui ont activé la cloche, moi je suis à 6%, et c'est vrai qu'en fait je ne le dis jamais. Donc c'est extrêmement important d'activer la cloche, parce que si vous activez pas la cloche, vous n'êtes pas tenu informé de tout ce que je dis, parce qu'il y a des fois je fais des annonces par poste, etc. Donc si vous voulez être bien au courant, il faut appuyer sur la cloche. En plus, plus il y a de gens qui appuient sur la cloche, plus là aussi ça stimule l'algorithme, c'est extrêmement important. Bien. Donc, cette émission, donc j'ai voulu repartir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail d'absolument tout, naturellement. Je vais en rester, disons, sur ce qui, à mon sens, permet de se faire une idée. Parce qu'à mon sens, c'est le principal. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les affaires, de tous les détails qui ont été faits, parce que ça dure depuis plus de 10 ans, 13 ans. Donc, ça serait extrêmement compliqué de tout suivre, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas avérées dedans, et que ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Je voudrais repartir d'une chose de base, qui est un petit peu ce qui est la personnalité d'Hervé Epstein. D'Hervé Epstein, de Jeffrey Epstein lui-même, j'ai confondu deux, et vous voyez je dis quand même Epstein alors que je me suis trompé, Epstein lui-même, parce que pendant longtemps en fait il y a eu des choses fausses qui ont été dites sur lui et qui en fait relevaient sans doute de la propre légende qu'il avait développée sur lui-même en fait. Et je trouve ça assez intéressant. Notamment, il y a encore... je saurais pas vous faire l'historique de l'évolution de son article Wikipédia. Ce que je sais, c'est que j'y étais allé il y a... Pas tout récemment, mais ça doit faire un an. Et j'avais remarqué que on était encore sur ce narratif qui était, alors c'était peut-être pas le cas dans le Wikipédia en anglais, je sais plus lequel j'étais allé voir tout simplement, mais il était encore beaucoup question de ce narratif donc où il était présenté comme ce qui était sa légende initiale, c'est-à-dire avant même le scandale, c'est-à-dire un type qui avait été un trader très très fort, qui avait réussi à faire fortune comme ça. Avant ensuite d'intégrer les cercles mondains, etc. Ce qui faisait naturellement que le dévoilement de ses premières turpitudes avait énormément choqué, pour la simple et bonne raison que avoir une personnalité comme ça qui était en vue, qui avait eu du succès légitime, on va dire, pour d'autres raisons, ça en faisait une espèce de notable, respectable, et donc... que tout d'un coup on s'aperçoive qu'il avait recouru à de la prostitution, qu'il avait été dans des réseaux de trafic sexuel de mineurs, donc pédophiles, etc., forcément, ça avait énormément choqué. La réalité, c'est que du coup, depuis, son passé a été beaucoup fouillé, et en fait, on se rend compte que le profil d'Epstein, dès le départ, au tout début, c'est-à-dire quand il commence sa carrière, c'est que ce qui définit ce personnage, c'est que c'est un escroc de très haut vol, très doué sans doute, mais de premier ordre, mais un escroc. C'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière professionnelle Et il a fait ça pendant toute sa vie, en fait, sans avoir les diplômes et les qualifications qu'il fallait. Il a commencé à avoir des emplois d'enseignant. Il a commencé, et ça c'est son grand talent, mais qui est le talent de beaucoup d'escrocs de haut vol, qui est d'être très capable de sociabiliser, de se faire tout un tas de réseaux, de discuter avec les gens, sans doute d'avoir un certain bagou en direct. Et donc il s'est fait énormément de... il s'est fait une personnalité qui avait l'air très, très, très dynamique, comme ça, très avenante, donc en se donnant l'air toujours d'être plus capable qu'il n'est. Vous savez, il y a tout un tas de gens comme ça qui sont tout prêts à se faire embobiner par le fait que les gens... Si vous voulez, plus vous allez dans des milieux mondains et dans des milieux fermés, plus le paraître contre plus que l'être. C'est-à-dire qu'on considérera, vous aurez bénéficierez d'un effet de halo, qui fait qu'à partir du moment où vous êtes à halo avec un H, hein, H-A-L-O, comme le jeu, mais c'est-à-dire que le simple fait que vous soyez là, déjà, ça donne une présomption juste sur ce que vous êtes. Donc on aura tendance à croire que vous n'êtes pas un escroc, parce que vous avez reçu une reconnaissance de base, si vous voulez. Et ça peut durer très longtemps et être très dur à éliminer. Si vous voulez avoir un exemple tiens, de réputation qui a été faite très vite et sur laquelle le personnage surfe depuis, vous prenez Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, on l'a vu apparaître en France en... Alors je ne compare pas avec Jeffrey Epstein hein, sur le comportement personnel, mais sur la capacité à se construire un narratif génial. Alors qu'en fait derrière il y a rien, je veux dire, il n'y a pas de claim scientifique particulier, etc. Mais ce type très jeune, c'était il y a plus de 10 ans, a fait la couverture du Point, il a été présenté partout sans que personne mette en question ses diplômes, jusqu'à ce que des gens aillent fouiller, s'aperçoivent que bon, il y avait des choses qui étaient critiquables, ça a même donné lieu à une expression qui est l'aberkanisation du CV. Et bien la plupart des escrocs de haut vol sont dans ce registre-là, en fait. Et Epstein est presque un précurseur dans ce domaine, en tout cas un génie, et qui a su surtout aller dans les milieux comme ça, mondains, pour évoluer. Mais là où il y a une erreur qu'il n'a jamais faite, enfin jusqu'au moment où il a commencé à être coincé pour ses turpitudes, c'est justement de se mettre trop en avant, ou même d'essayer de se faire passer authentiquement pour un génie ou un scientifique. Ce qui, à ce moment-là, parce qu'il faut être aussi très honnête, les choses sont sociales avant d'être intellectuelles. Les gens qui ont commencé les premiers à aller débunker Idriss Aberkan, c'est parce qu'ils étaient jaloux, c'était souvent des universitaires, des gens formés, qui étaient jaloux de son exposition médiatique. Alors ils sont allés fouiller pour vérifier si ses diplômes étaient bien. Bon, donc c'est comme ça que les gens ont trouvé. Mais si vous voulez, Epstein, lui, il a réussi à éviter ça pendant très longtemps. Et on a véritablement commencé à fouiller dans son passé à partir du moment où il a été pris dans ses turpitudes, justement. Et donc, je disais, il a été pris là-dedans, et en fait, il a enchaîné son parcours de la sorte comme ça, parfois en se faisant virer, mais en arrivant à rebondir sur autre chose. Et en fait, une grande partie de sa fortune a été plus ou moins volée à un vrai milliardaire, parce que ça aussi, ça fait partie de la légende de Jeffrey Epstein. On vous dit tout le temps le milliardaire Jeffrey Epstein. En réalité, il n'a jamais été milliardaire Jeffrey Epstein. Sa fortune était évaluée à sa mort entre 500 et 600 millions de dollars, ce qui est considérable, on est d'accord, mais il n'a pas dépassé le milliard, donc il n'est pas à proprement parler un milliardaire. Il a toujours fait en sorte, en revanche, d'avoir l'air d'être un milliardaire. Lui-même disait qu'il en était un, parce qu'encore une fois, ça faisait partie du truc. L'idée de base de l'escroc de ce genre-là, vous en avez d'autres qui ont fait ce genre de choses, hein, Rocancourt à un niveau plus modeste, c'est qu'il faut d'abord faire semblant d'être quelque chose pour arriver à le devenir, pour obtenir les moyens d'arriver à le devenir. Et donc Epstein, il a fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il s'est bâti cette espèce de personnage jusqu'à ce qu'il ait la crédibilité suffisante pour faire passer sous sa coupe, en fait c'est ça, un milliardaire comme Leslie Wexner, donc qui était fondateur d'un certain nombre de magasins de vêtements pour femmes et qu'il a pris comme conseiller financier et qui lui a donné une procuration totale sur la totalité de ses comptes. Et à partir de là, à la fois Jeffrey Epstein lui a facturé pendant des dizaines d'années des frais très importants de gestion de comptes, donc naturellement il a fait son beurre là-dessus, ça c'est considéré comme revenu légitime parce que c'était facturé en échange d'un travail, même si on peut se poser la question du montant des honoraires. Et en plus de ça, il faisait des retraits d'argent, il a mis des immeubles entiers à son nom, etc. Et donc c'est comme ça, en grande partie, en fait, c'est les centaines de millions qu'il avait à sa mort, pour une bonne partie, c'était de l'argent qu'il avait comme ça détourné, piqué, de ce client en particulier, mais probablement d'un certain nombre d'autres aussi. Donc c'est véritablement une personnalité d'escroc, encore une fois. Et ça, c'est quand même très important, parce que à la base de tout le de toute la légende un petit peu qui s'est forgée, et de la du réseau qui s'est mis en place, en tout cas du mythe Epstein, finalement, d'une certaine manière, de ce personnage très puissant, de réseau mondain, etc., il y avait quand même l'idée préalable qui était que c'était un personnage légitime au sein de ce monde-là, qui avait effectivement très bien réussi, et qui, en plus, à côté de ça, était une grosse ordure. Donc c'était véritablement le notable qui... Alors qu'en fait, il faut se rendre compte que déjà, en soi, comme membre de cette caste, finalement, des riches financiers, c'était un imposteur. Je pense que c'est quand même important d'avoir ça en tête. C'était un imposteur, et ses comportements indécents avec les jeunes filles, ou en tout cas limite, je ne sais pas si c'était indécent dès le début, il n'y a pas eu de preuve, mais limite, ça a commencé dès le début, c'est-à-dire dès sa jeunesse dans les années 70, quand il a commencé, je vous disais qu'il avait commencé comme enseignant. Dès ce moment-là, il y avait eu des informations comme quoi il essayait de se taper des étudiantes, etc. Donc c'est dès le début. Donc on a, j'insiste là-dessus, Jeffrey Epstein, on est face à un personnage qui, dès le début, est un escroc, donc un type malhonnête, quoi, et qui, dès le début, en plus, est ou a tendance à être un prédateur sexuel. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est ça le parcours de ce bonhomme-là. Bon. Et donc je vous disais, il a réussi à devenir très riche comme ça, et une fois riche, il a entretenu tout un réseau mondain, et en même temps, il s'est livré à des activités de trafic sexuel sur des êtres humains. Et parfois, les deux se recoupaient. C'est-à-dire, il y avait peut-être une partie de sa vie mondaine qui recoupait le fait qu'effectivement, en même temps, il faisait du trafic sexuel d'êtres humains. Voilà, c'est ça les deux. Mais ça ne veut pas dire que les deux se recoupent entièrement, déjà. Et ensuite, ça veut dire qu'il faut faire très attention, à partir du moment où on étudie le réseau de ce genre de type, de pas basculer forcément dans l'idée que son réseau, ce sont ses complices. Parce que, justement, ce qui caractérise encore une fois ce genre de personnages, ce genre d'escrocs, c'est qu'ils doivent en permanence maximiser leur réseau. Et ils créent le réseau, et en même temps, ils utilisent ce réseau comme aura pour maximiser encore plus leur réseau. Ce qui est un Ponzi social, si vous voulez, d'une certaine manière. Outre le fait qu'en plus, il a donné aussi dans le Ponzi, de base, puisque c'était la Towers Financial Corporation. Il travaillait dans une, c'était censé être une agence de recouvrement de créances. Et en fait, déjà là-dedans, il avait monté un système de Ponzi. Et ça a été, comme ça que Wikipédia le caractérise, la plus grande fraude financière de l'histoire américaine, jusqu'à celle de Bernard Madoff. Effectivement, j'avais lu la même chose dans un thread Twitter très bien fait il y a quelques jours. Donc c'est un escroc. C'est un escroc qui a fait à peu près tout le panel de ce que peut faire un escroc de ce genre, c'est-à-dire de l'abus de confiance, quelque chose probablement qui tourne autour de l'abus de faiblesse, du Ponzi, donc de l'escroquerie pure et dure, etc. Tout ça. C'est ça, Jeffrey Epstein, à la base. Et la grande force, et probablement ce qui a donné naissance à tout le mythe Epstein, et ce qui a forcément énormément stimulé l'imagination, c'est qu'il a été connu pendant longtemps sans qu'on se rende compte que c'était un escroc et un imposteur. Et donc, au moment où on se rend compte et même on s'est rendu compte à limite que c'était un escroc, à quel point c'était un escroc et un imposteur, après qu'on se soit aperçu de cette turpitude sexuelle avec des jeunes filles. Et ça, encore une fois, je le répète, c'est très important pour moi, parce que, je vais en reparler un petit peu après, ça donne l'impression que quelqu'un qui était une personnalité finalement lambda de l'establishment, en gros, avait ce genre de mœurs-là. Et donc, ça projette sur l'ensemble, justement, de l'establishment, l'idée qu'ils sont peut-être tous comme lui. Alors qu'il y a quand même, c'est quand même négligé un élément problématique du parcours et de la personnalité du personnage de base, c'est que de base, il a d'abord escroqué tout ce milieu, d'accord, avant d'en faire partie, ce qui me paraît important dans la montée du personnel. Et donc, il a créé tout ce réseau et naturellement, il a été en contact avec énormément de gens dedans. D'ailleurs, on le voit, c'est la première chose qui sort de ses messages. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a déjà le plus marqué dans son truc, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il écrivait à tout le monde énormément, sans arrêt, souvent avec des messages, d'ailleurs, ça a donné lieu à un certain nombre de mèmes, écrits avec une orthographe et une ponctuation extrêmement aléatoires. Mais ça le gênait pas. Voilà, il écrivait à tout le monde et donc il se faisait des relations comme ça. Vraisemblablement qu'il était aussi sans doute, et c'est jamais très loin, assez mythomane, en plus d'être un escroc, mais souvent les deux sont liés. Le très bon escroc doit un peu croire aussi à ce qu'il dit. Et qu'il utilisait aussi, pour se faire mousser, de fausses histoires qu'il inventait sur des gens, pour faire croire à d'autres qu'il savait telle chose sur telle personne, donc qu'il avait telle personne dans la main. Donc sans arrêt, il affirmait comme ça finalement, ou suggérait le pouvoir qu'il avait, qui n'était pas forcément réel, mais qui pouvait finir par le devenir, notamment grâce aux interactions que grâce à ça il mettait en place, éventuellement avec ses histoires de prostituées mineures, etc. Donc c'est véritablement ça. Oui, quand on me dit un Rocancourt américain, oui, mais un Rocancourt, j'ai envie de dire, peut-être beaucoup plus pervers sur le plan de ses mœurs personnelles, et ayant un succès encore bien plus important en matière financière, naturellement, parce qu'il a réussi à faire durer ça très longtemps, et à se positionner. Et ça, c'est un autre aspect qui est important, si vous voulez. Et il faut bien comprendre, là aussi, comment fonctionnent les structures sociales. Encore une fois, quand vous êtes dans un milieu, et que vous êtes déjà relativement reconnu dans ce milieu, c'est extrêmement compliqué de vous faire tomber dans ce milieu. Et de faire passer le message que le type est louche. La plupart des gens, comme vous savez par exemple qu'il est connu de tout le monde, si vous commencez à avoir quelques histoires sur lui, vous n'allez pas entrer en croisade contre le type, parce que ça peut vous faire peur. Vous pouvez vous dire que vous ne voulez pas qu'il vous cherche dans merde, que comme vous n'êtes pas sûr que vous ne pouvez pas prouver, vous pourriez vous prendre des procès, etc. Et donc vous avez des gens qui peuvent, les gens qui s'apercevront que le type est un escroc, ben, leur premier réflexe, ça ne sera pas tellement d'essayer de le dénoncer en place publique, mais tout simplement de couper les ponts avec ce type et de ne plus lui parler. Ce qui est peut-être d'ailleurs ce qu'a fait Donald Trump, puisque une des choses qui semble se confirmer à la lecture des documents, c'est que Donald Trump avait plus de rapport avec lui depuis 2004-2005, à peu près. Donc peut-être après avoir compris que le type était un petit peu était louche. Donc il y a eu l'affaire que vous connaissez, bien sûr, il est tombé pour ça, il s'est suicidé avec toutes les en prison, avec tous les doutes qu'il peut y avoir dessus, sur lesquels je m'exprime pas parce que je ne connais pas assez le détail de l'affaire, et de toute façon, c'est probablement un truc qui finit par être indécidable, tellement la mayonnaise est montée sur ce genre de dossier, sachant que je me méfie forcément de l'histoire selon laquelle forcément il s'est pas suicidé, parce que d'une part, ben, le fait que l'escroc qui est finalement acculé au truc se suicide, c'est pas une issue totalement délirante. Et d'autre part, parce que je peux pas empêcher de penser que dans le refus de croire au suicide, et je sais qu'à la limite j'ai moi-même cette pente, il y a aussi le fait de se dire que l'histoire peut pas être aussi simple que ça quand vous arrivez à ce niveau-là. Et en particulier si vous ne comprenez pas que le mec était un escroc de base. Hein. Donc dans ce cas-là, vous imaginez tout de suite. Mais le problème, c'est que souvent, quand vous partez du principe qu'il ne s'est pas suicidé, c'est que vous partez du principe aussi que tout un tas de choses derrière qui ne sont pas démontrées, hein, qui sont peut-être vraies, mais qui ne sont pas démontrées, sont vraies. Voilà. Et ça, c'est un problème. Donc moi, comme je ne pars pas de présupposés, est-ce qu'il s'est suicidé, est-ce qu'on l'a aidé à se suicider, les deux peuvent être possibles. La question à ce stade, c'est surtout celle des faits. Et celle des faits, il y a ceux que je vous ai dit sur le parcours d'Epstein lui-même qui sont assez clairs et bien documentés maintenant. Et ensuite, vous avez ce qui sort de ces documents. et dont on imaginait, il y avait quand même cette, là aussi, la mayonnaise était montée depuis quelques années, ce qui est classique dans ce genre de phénomène, ça j'y reviendrai plus tard avec les petits parallèles que j'essaierai de trouver, qui est de tout de suite imaginer que, bon, en même temps je peux le dire tout de suite, dans les grands mythes modernes, on va dire comme ça, sur les grandes affaires, qui finissent par cristalliser les gens et s'inscrivent dans un moment politique particulier, un moment quasi révolutionnaire, si vous voulez, vous avez, à partir du moment où vous avez l'impression qu'une affaire devient le nœud de quelque chose, et que le fait que cette affaire soit révélée publiquement ferait tomber un certain nombre de gens, qui sont les gens qui sont au pouvoir, ben, en soi, vous avez une analyse d'une affaire qui devient en fait un espoir politique. Et un espoir politique de type eschatologique, c'est-à-dire le fait que tout changera à partir du moment où. Et les récits autour de l'affaire Epstein, ça a beaucoup donné ça, avec l'idée qu'en gros, il fallait révéler les dossiers Epstein parce que ça ferait tomber tout un tas de personnes. Et donc après, on y verrait plus clair, ça irait mieux, etc. Éventuellement, ça sauverait la démocratie américaine ou la civilisation occidentale en faisant tomber des gens, etc. Donc il y a toujours une espérance absolue, si vous voulez, dans le fait que l'événement se réalise. Et comme en général, l'événement n'est jamais à la hauteur de ce qu'il y a, parce que souvent ça a été grossi et fantasmagorique, ben forcément, ça paraît moins intéressant. Mais moi, ce qui m'intéressera surtout, c'est de savoir qu'est-ce qui peut en sortir effectivement. Parce que c'est pas parce que les Epstein Files ne seront pas ce que les croyants, on va dire, du dossier espéraient, que ça n'aura aucun effet et que ça n'aura pas une certaine importance et que ça ne sera pas révélateur de certaines choses sur la société actuelle et sur les jeux de pouvoir actuels. C'est là-dessus que j'insisterai un petit peu plus tard. Donc qu'est-ce qui est sorti de ces documents? Quelles sont les données en fait qui semblent un petit peu claires? Alors j'ai essayé de retrier ça un petit peu en demandant à l'IA, on fait ça classiquement pour essayer de, mais en voyant si ça correspondait à ce que j'avais perçu. Pour l'essentiel oui, pour d'autres il y avait des choses que j'avais ratées. Donc voici grosso modo les choses qui ont été trouvées et qui sont surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, ceux qui sont soulignés dans les médias, ce dont il est beaucoup question, ce dont on parle, c'est-à-dire ce que suffisamment de personnes estiment suffisamment intéressant. C'est ça, si vous voulez, l'idée. D'abord, il y a le fait que Donald Trump est effectivement mentionné. Alors, j'ai pas vu de décompte exact, j'ai vu entre 1000 et 6000, donc ça fait pas mal. Et ça serait le nom le plus cité, mais en réalité, dans la plupart du temps, c'est parce que Epstein le vilipende, hein, le traite de méchant, veut s'en débarrasser, etc. Alors, j'ignore si c'est parce que Epstein percevait effectivement Donald Trump avait une espèce d'obsession anti-trumpienne à partir d'un certain moment, ou bien si c'était parce que tout simplement au moment où Donald Trump est arrivé au pouvoir, c'était le meilleur moyen de discuter avec tout un tas de monde, de dire du mal de Donald Trump, parce que c'était un tel lieu commun parmi l'establishment que si vous vouliez montrer patte blanche et aller parler à des gens, ce qui était quand même une bonne partie de l'activité d'Epstein, et ben c'est ça ce qu'il fallait faire. Donc est-ce que c'était encore une fois par intérêt et dans le cadre de son jeu habituel, ou bien est-ce que c'était véritablement parce qu'il avait une rancune envers Trump, c'est assez difficile de voir ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que son attitude a été celle de quelqu'un qui était hostile à Trump, pas de quelqu'un qui était ami avec Trump. Il y a eu bien sûr donc des images qui ont montré des photos nues de victimes, etc., mais qui ont été vite censurées. Il y a eu beaucoup d'allégations sur Bill Gates, mais qui sont en fait des allégations non prouvées. Si on regarde, c'est beaucoup de mails qui n'ont pas été envoyés, ou de brouillons, donc de mails d'Epstein, pardon. Et c'est clairement pas, enfin, il y a rien de prouvé en fait. C'est juste que ça pouvait être lui qui balançait des ragots juste encore une fois pour faire accroître son pouvoir, parce que Bill Gates était probablement un des types les plus importants qu'il connaissait, hein, tout simplement. Il a longtemps été l'homme le plus riche du monde. Donc forcément, ça a relancé encore les spéculations sur Bill Gates, parce que Bill Gates aussi est au cœur de grosses théories du complot, qui le voit à l'origine de la pandémie de Covid, qui le voit à l'origine de tout un tas de choses, notamment dans le cadre de l'OMS, tout ça. Et donc c'est aussi une figure très prisée comme ça, Bill Gates. Mais apparemment, il n'y a pas de preuves là-dessus. Il y a eu des emails Epstein-Macron qui datent de 2016-2018, mais qui ne dans lesquels, alors il semble que Macron aurait demandé quelques conseils. Simplement, là aussi, toujours pareil. Hein. Il y a à la fois pour Epstein la volonté de chercher de détendre encore son réseau, éventuellement de parier sur des gens qui pourraient gagner en pouvoir à l'avenir. Et de l'autre côté, et notamment du côté d'Emmanuel Macron à l'époque, même si je sais pas si ce contact direct-là est vérifié d'ailleurs, parce que j'ai vu des infos contradictoires là-dessus, ça peut être aussi le fait qu'à l'époque, Epstein, encore une fois, avait pignon sur rue d'une certaine manière, était vu lui-même comme le nœud de certains réseaux mondains et donc comme l'occasion d'approcher d'autres personnes. Il y a eu des photos compromettantes, alors ça on n'en parle pas trop en Europe, c'est aux États-Unis surtout, de Brett Ratner qui est le réalisateur du film Melania. Il y a eu, et ça j'y reviendrai après, bon il y a pas mal de choses sur le réseau international de mannequins et de trafic. Sur des agences ukrainiennes et russes qui fournissaient des filles donc à Epstein. Et puis le dossier peut-être le plus, ce qui fait le plus de bruit en tout cas, qui a le plus d'implications politiques immédiates, c'est sur Peter Mandelson, nommé ambassadeur, ancien commissaire européen, hein, ce qui n'est pas toujours souligné. On souligne que c'était l'ambassadeur britannique à Washington, mais pas que c'est un ancien commissaire européen aussi, et qui lui aurait quand même carrément aidé Epstein à faire des délits d'initié importants sur un certain nombre de marché, notamment à propos de, notamment après la crise des subprimes, à travers certains sauvetages de banques européennes, où il aurait été au courant avant que ce soit annoncé. Donc il aurait réussi à faire des gros coups comme ça. Voilà, donc ça c'est les actualités dominantes. Et j'y reviendrai dans quelques instants quand je voudrais essayer de réfléchir sur les conséquences exactes de tout ça, sur le plan politique. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui sort de plus. Il y a des choses qui sont sorties de plus sur le prince Andrew. Mais enfin, on savait déjà qu'il était impliqué. Il y avait eu des photos, etc. Donc, on était déjà au courant. Donc, il n'y a pas de nouvelles affaires, véritablement, qui sortent. Les gens qui étaient soupçonnés, encore une fois, prince Andrew, les trucs sur Woody Allen, des gens comme ça, c'était des gens dont on savait déjà qu'il y avait des problèmes, si vous voulez. Donc ça amène pas de nouvelles accusations. Il n'y a pas tout d'un coup l'espoir de la liste Epstein qui permettrait de dire « Ah ben, un tel a fait ci, un tel a fait ça », alors que les gens n'étaient pas soupçonnés jusque-là. Bon, ça n'a pas lieu. Ce sont les gens qui sont soupçonnés, sont les gens qui étaient déjà. Hein, voilà. On s'aperçoit aussi ça. Alors ça fait beaucoup de bruit dans les forcément dans les cercles antisémites qui voient un petit peu dans la personnalité de d'Epstein la figure de l'escroc juif éternel qui méprise les goïms dans ses messages. Il était vraisemblablement dans ce genre d'ambiance là. Il y a eu d'autres personnages aussi comme ça. On se souviendra de Stavisky qui à l'époque dans les années 30 encore, hein, nous ne sortons jamais des années 30, nous y sommes signés toujours, avait également été à l'origine d'un énorme scandale financier également qui avait posé qui avait énormément nourri la montée de la méfiance envers les élites à cette période là. Donc ça, c'est tout ce qui est sorti actuellement. Je vais dire dans un instant ce qui est intéressant, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la façon dont c'est perçu sur le plan politique. J'ai presque envie de parler de guerre des complotismes, mais je le dirai tout à l'heure. Mais c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on a je reviendrai là-dessus après, mais on a un retour en fait de. Jusqu'ici, il y avait deux complotismes, le complotisme populaire et le complotisme des élites, qui émergeaient de plus en plus. Le complotisme populaire, tous les médias en parlent, c'est le complotisme non autorisé. Après, vous avez le complotisme autorisé, qui est le complotisme des élites, qui est celui qui voit les Russes partout, etc. J'y reviendrai. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, d'habitude, on a les gens qui créent au complot, et en face, que ce soit les élites ou le peuple, et en face, l'autre camp qui dit « mais non, c'est pas un complot, vous racontez n'importe quoi ». Et là, on est en train d'une nouvelle phase où chacun a son interprétation du complot, en fait. Mais bon, j'y reviendrai en terminant. Je voudrais juste faire un petit détour historique, justement, parce que, naturellement, le premier réflexe d'un certain nombre de gens, quand j'ai dit que j'allais faire une émission sur cette affaire Epstein. N'oubliez pas de pousser, d'ailleurs, hein, je le répète, hein, c'est très important. On a que 300, vous êtes déjà 600, je pense qu'on peut faire mieux. C'est qu'on m'a dit, est-ce que vous voyez un parallèle historique à cette affaire-là? Alors, comme j'ai mentionné déjà Stavisky, des affaires financières, il y en a eu tout un tas, mais l'affaire Epstein, c'est pas une affaire financière au premier chef. Comme je vous l'ai dit, si on réétudie le personnage, on s'aperçoit que c'est essentiellement ça qui a, c'est un autre Madoff, voire un pré-Madoff, hein, même si lui, il avait réussi à pas se faire choper. Les autres avaient été chopés, lui, il avait pas été inquiété. Pourquoi? Peut-être déjà parce qu'il avait réussi à faire son réseau et que ça lui a permis de faire un certain nombre de pressions ou d'avoir des amitiés qui l'ont protégé à ce moment-là, c'est tout à fait possible, hein. Ce serait même logique, puisque c'est précisément l'arme, excusez-moi, que recherche ce genre d'escroc, hein, à se rendre intouchable grâce à son réseau d'amitié. Mais à la limite, ça, c'est pas le principal, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce qui a vraiment focalisé Epstein, et l'idée dans les Epstein Files, c'était ça, c'était les clients, c'est-à-dire ceux qui étaient allés sur la fameuse île, éventuellement, y faire du tourisme sexuel, se livrer à la pédophilie, etc. Et ça, pour le coup, c'est aussi un vieux réflexe, et on en trouve tout un tas de cas. Et l'affaire qui, pour moi, est la plus... ce genre de... Si vous voulez, à l'époque, depuis 30 ans, si vous voulez, il y a tout un tas d'affaires qui ont nourri ces idées des cercles, des réseaux, d'élites pédophiles, etc. Il y a eu l'affaire Dutroux, bien sûr, il y a eu d'autres types d'affaires aussi. Mais là, avec Epstein, on était vraiment au cœur du cœur, parce que c'était souvent avec les affaires Dutroux ou quoi, c'était en Belgique, c'était des réseaux locaux, etc. Là, tout d'un coup, c'était les grandes élites mondiales qui avaient au milieu d'eux un personnage comme ça. Et donc, ça a excité tout un tas d'idées selon lesquelles on est gouverné par des méchantes élites pédophiles, voire satanistes, et que c'est grâce à cette affaire-là que ça va finir par sortir. Bon. Et ça, en fait, c'est pas du tout nouveau, et c'est presque une... Alors, c'est pas une, je dirais pas que c'est une permanence, je dis que ça s'en va et que ça revient. L'affaire que ça m'évoque le plus, moi, c'est l'affaire de l'hôpital général, au XVIIIe siècle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette affaire. Ça se passe dans les années à partir de 1749. Ça dure plusieurs années, hein, comme l'affaire Epstein. Ça dure pendant une dizaine d'années. En fait, il y avait eu au XVIIIe siècle avait été mis en place l'hôpital général. Donc, en fait, c'était des structures laïques essentiellement, peut-être les plus grandes institutions laïques de Paris, à l'intérieur desquelles on enfermait en fait les miséreux, les malades. C'était comme ça qu'on gérait le truc à l'époque. C'était assez ignoble sur le plan social, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Et il y avait plusieurs ancêtres d'hôpitaux de Paris d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il y a la Salpêtrière, la Pitié, c'était déjà des morceaux de ça. Oui, l'aide sociale à l'enfance, en somme, oui, il y a un petit peu les mêmes problèmes encore aujourd'hui, d'une certaine manière, effectivement. De toute façon, il y aura toujours ce genre de problème dans ce genre de structure. Et tout d'un coup, il y a eu des lanceurs d'alerte, en fait. Puisque en mai 1749, il y a la supérieure de la Salpêtrière qui s'est enfuie avec 20 de ses subordonnés, qu'elles soient religieuses ou laïques, et qui a dénoncé publiquement les maltraitances sur les pensionnaires, notamment les femmes et les filles, des détournements de fonds massifs, À la fois les legs des personnes privées, mais aussi les dons royaux, donc l'argent public, hein, finalement, puisque c'était la caisse du roi, c'était ce qui venait par les impôts, et de la corruption et des abus sexuels par les personnels. Et là-dessus, vous avez eu donc ça a commencé en mai 1749, et tout au long de l'année 1749, il y a la rumeur qui est montée sur ce qui se passait dans l'hôpital général. Et il y a carrément eu une rumeur donc, qui est apparue à partir des années 1750 où, en fait, des enfants et des adolescents étaient enlevés dans les rues de Paris par la police, qu'ils étaient envoyés à l'hôpital général pour y être exploités, violés, et parfois même on parlait d'être tués et sacrifiés. Et vous aviez des versions extrêmes de la rumeur qui disaient qu'il y avait des bains de sang pour les nobles, voire le roi lui-même pour sa santé. Et ça vous rappelle tous ces justement ces histoires qui se sont liées autour de Jeffrey Epstein, toutes les histoires sur l'adrénochrome, vous savez, tous ces trucs-là qui seraient ponctionnés sur les enfants pour faire des thérapies de rajeunissement, tout ça, mais en fait, ça existait, c'était déjà dans l'affaire de l'hôpital général. Ça s'était assez mal terminé parce qu'il avait fini par y avoir des émeutes. Et ensuite, en mai-juin 1750, donc un an après le début, ça avait été appelé, on appelait ça la Marche Rouge. Donc vous aviez une foule populaire comme ça qui avait attaqué les commissariats, il y avait eu des lynchages, et naturellement, la monarchie a réprimé tout ça comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire avec exécution, pendaison, envoi aux galères, etc. Et il faut se rendre compte que Louis XV lui-même était directement accusé dans ses rumeurs, parce qu'on disait qu'il avait besoin de sang d'enfant, notamment pour sa santé ou pour ses orgies. Et ça a été pré-révolutionnaire dans le sens où ça a beaucoup ébranlé naturellement le crédit de la monarchie. Alors il faut se rendre compte que c'est peut-être pas absolument faux d'ailleurs, parce que Louis XV était lui-même assez dégénéré dans ses mœurs, et effectivement se faisait constituer des petits harems, on va dire, dans lesquels il allait se distraire, et où bon, on peut imaginer que le degré de consentement ou de connaissance de cause des jeunes filles qui étaient amenées là était pas pleinement pleinement acquis, on va dire. Donc en soi, quand même, la personnalité de Louis XV méritait la critique. Mais de là à dire qu'il se baignait dans du sang d'enfant et qu'il faisait sacrifier des petits gosses, non, ça c'était faux. Mais on voit qu'il y a toujours une continuité comme ça qui est établie entre les deux. C'est encore le cas ici. Et c'est une confusion qui arrive très fréquemment, ça. En partant du fait que. En parlant de pédophilie et en faisant un lot pour absolument tout. Alors que c'est pas la même chose. Et ça, j'aimerais m'arrêter une seconde là-dessus. Parce que cette idée que des élites pédophiles, c'est donc un mythe qui est ancien. Ça existait à l'époque de ça. Ça existait. Il y avait aussi eu des idées déjà avant ça, un siècle avant, sous Louis XIV, avec l'affaire des poisons. Il y avait eu aussi des choses qui étaient comparables, en fait, même sous la République romaine, avec l'affaire des bacchanales. C'était au lendemain de la Deuxième Guerre punique. C'était toujours le même genre de truc, avec l'idée de sacrifice d'enfants, etc. C'est assez régulier, donc dans la psyché humaine, c'est quelque chose qui revient, probablement parce que c'est ce qu'on peut imaginer de plus horrible, et donc naturellement, on y revient toujours. Et le truc, c'est qu'en général, tout ce qu'on arrive à trouver, c'est sur certaines personnes, appartenant aux élites, des comportements sexuels un peu déviants, voire très déviants, et notamment, pour le coup, l'exploitation sexuelle de jeunes mineurs, filles. Ce qui est, à proprement parler, et juridiquement qualifié de pédophilie, hein, à un certain âge. Le problème, c'est que dans les rumeurs populaires, en revanche, qui sont faites là-dessus, il y a souvent une espèce de confusion qui est faite entre ça, ce qui est de la prostitution de jeunes filles mineures, voire très mineures, ce qui est effectivement de la pédocriminalité, mais qui n'est pas littéralement et exactement la même chose que de sacrifier des tout-petits-enfants. C'est quand même important à comprendre pour comprendre la relative déconnexion du réel qu'il peut y avoir dans ces histoires, dans ces mythes de réseaux à grande échelle de pédophiles dans les élites. Parce que pour l'image mentale qu'a tout le monde en général, même si on emploie aussi donc pédophilie pour la pédocriminalité qui touche les jeunes filles, la réalité c'est que quand on dit pédophile, on pense à un type comme Pierre-Alain Cotinot, le type de LFI, qui a mené des orgies effectivement ignobles avec des bébés. Enfin, j'ai même pas lu les articles parce que je peux plus, depuis que j'ai des gosses, je peux plus lire ce genre de choses. C'est assez ignoble. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de pédophiles-là, ce qu'on appelle les pédophiles, ce sont authentiquement des... il faut bien comprendre ça. Ce sont des gens qui ont un problème mental grave et qui, par définition, ne peut toucher qu'une petite minorité de la population et qui sont généralement des gens qui sont plutôt marginaux. Ou insérés uniquement dans des groupes qui partagent ce genre de choses et qui sont à côté de ça relativement isolés socialement. Et moi notamment c'est ce que j'ai observé parce que de par mon métier j'ai eu l'occasion de voir des pédophiles, des vrais pédophiles, hein, c'est-à-dire ceux qui touchent les petits-enfants hein, de près et de me faire une idée sur en quoi ça consiste. En fait, ce sont des gens qui ont clairement un problème de développement, comment dire, psychologico-affectif, souvent qui ont un mal particulier à se voir devenir adulte, mais qui, en même temps, ont une sexualité active, voire très active d'adulte. Et alors, pourquoi c'est très problématique ? Parce que, du coup, ils ont toujours tendance à considérer qu'ils sont toujours des enfants et que quand ils sont en présence d'enfants, les enfants sont des personnes normales comme eux. Le problème, c'est qu'eux se perçoivent comme enfants tout en ayant des désirs sexuels d'adultes, puisque hormonalement, ils sont dans cet état-là. Et ça fait qu'ils sont en fait radicalement incapables de comprendre en réalité comment fonctionne un enfant. Il faut être pleinement un adulte pour comprendre comment fonctionne un enfant, ou être purement un enfant, mais bon là vous comprenez pas, vous vivez juste comme lui. Mais si vous voulez, quand vous êtes un adulte normalement constitué, si vous avez un petit garçon, une petite fille qui vous montre son cul, vous savez que c'est pour rire et qu'il n'y a absolument rien de sexuel là-dedans, que c'est juste que ça le fait rigoler. Ce qui caractérise le pédophile, c'est que il prend ça, si vous voulez, comme si c'était sa collègue de 25 ans au bureau qui lui montrait son cul. Ce qui naturellement renvoie pas le même message. Mais sauf que si c'est un gamin qui fait ça, lui il va croire effectivement que c'est de la comment dire pour la guichet. Et ça c'est véritablement terrible parce que j'ai eu l'occasion de voir des gens comme ça et vous vous apercevez que vous ne pouvez pas leur expliquer que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que même si vous leur expliquez, ils pourront faire mine de comprendre pour vous donner l'impression, pour jouer le jeu et vous donner l'impression qu'ils ont compris qu'effectivement c'est pas ça, mais vous sentez, en tout cas c'est moi ce que j'ai ressenti, vous sentez qu'au fond d'eux ils ne vous croient pas. Au fond d'eux ils croient que c'est eux qui comprennent comment ça fonctionne et que c'est vous qui le savez pas. Et donc en fait ils ont un rapport particulier aux enfants que vous avez pas parce que vous comprenez pas. C'est pour ça qu'à mon avis c'est pas curable. Mais c'est pas le sujet de l'émission de ce soir, mais c'est pour vous expliquer que la pédophilie, celle-là, celle qui touche les enfants véritablement et qui amène à faire physiquement du mal et des horreurs à des enfants et des petits-enfants, c'est-à-dire entre le bébé et le gamin de 7-8 ans, vous voyez, même aller jusqu'à 10 ans, ils sont encore petits, c'est-à-dire avant, prépubère, hein, si vous voulez, pour le dire comme ça, c'est véritablement un truc ça relève d'une maladie mentale, mais très minoritaire donc et très spécifique. Alors que, et c'est là que je veux vous faire la différence, dans des réseaux de prostitution de mineurs mais pubères, mais c'est quand même de la pédocriminalité, vous trouverez des hommes qui sont normaux, pour ainsi dire, mais qui sont des pervers sexuels, notamment parce que ils ne rechignent pas à aller vers une jeune fille mineure. Hein, parce que typiquement, ce qu'a fait, semble-t-il, le prince Andrew. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que le mythe qui veut que vous pouvez avoir de très grands réseaux d'élite, si vous voulez, peuplés de pédophiles authentiques de la première catégorie, ça, pour moi, c'est absolument invraisemblable. Parce que déjà, il faudrait que ces gens arrivent au plus dans les hautes fonctions élitistes, et il n'y a qu'une... même admettons que, comme je vous ai dit, c'est des gens qui ont un profil particulier en général, hein, leur souci justement est tellement investi dans leur perversion que ça va peu être mis dans le service d'une carrière professionnelle, même par carriérisme si vous voulez. Mais bon. Donc vous pouvez avoir éventuellement de vrais pédophiles, ce que j'appelle la première catégorie, hein, genre Pierre-Alain Cotillon, qui arrivent à des hautes fonctions, mais ça sera une toute petite minorité à l'intérieur de ce qui est déjà une toute petite minorité dans la population. Vous n'arriverez pas à peupler des élites avec des gens comme ça. Vous arriverez à avoir des élites assez dégénérées, qui ont des comportements assez ignobles avec des jeunes personnes. Ça oui, notamment parce que ils ont une sexualité débridée, ça pourquoi pas. Mais vous aurez pas vous aurez pas un réseau, si vous voulez, de pédocriminels sur des petits enfants. Ça, comme réseau, c'est totalement invraisemblable. Et pour autant, comme je vous l'ai dit, c'est un mythe qui ressurgit extrêmement régulièrement, historiquement. Pourquoi ? Ben parce que vous. Et c'est là qu'on arrive, je pense, au truc fondamental. C'est que ça dit quelque chose, surtout, du genre de climat politique dans lequel vous êtes. La France d'Ancien Régime, par exemple, et notamment la France du XVIIIe siècle, en particulier sous Louis XV, c'est déjà une France qui est pré-révolutionnaire. Et c'est une France, en plus c'est une France dans laquelle, il faut le dire, les élites avaient des mœurs qui n'étaient pas ceux de la population. C'est à ce moment-là que vous avez le libertinage qui apparaît notamment. Mais toutes les élites n'étaient pas libertines, hein. Vous aviez des dévots aussi qui n'étaient pas du tout dans cette ambiance-là, on va dire. Ça montre surtout la défiance et la détestation qui est apparue et qui fait que vous allez avoir une partie significative, voire très significative de la population qui sera très prompte à croire que les gens qui la dirigent, et parmi les gens qui la dirigent, il y a une majorité de gens qui sont absolument pervers. C'est-à-dire que quand vous arrivez à ce genre de situation, très inflammable psychologiquement, on va dire, c'est qu'il y a déjà une détestation qui s'est installée et qui va amener à imaginer toutes ces horreurs et ces sacrifices d'enfants, etc. Bon. À la fin, vous apercevez que ça n'existe pas vraiment, parce que il y a sans doute eu, hein, dans l'affaire de l'hôpital général, il y avait sans doute des abus sexuels, il y avait sans doute ce genre de choses, évidemment, probablement. Maintenant, tout ceci, encore une fois, n'était pas une entreprise fabriquée pour arriver à faire tout ça, et vous n'aviez sans doute pas de réseau, hein, sinon les historiens auraient fini par le trouver. Et c'est ça le fait qui est important, si vous voulez, c'est que ce genre d'hypothèse qui se répète tout le temps, et vous avez encore des gens qui défendent ça, hein, vous avez, en France, vous avez Carl Zéro qui passe son temps à expliquer ça, qu'il y a des gros réseaux comme ça, qu'en gros qu'on est sur le point de le prouver, mais c'est jamais prouvé, parce que, en fait, ça n'arrive jamais. Ce genre de gros réseau n'arrive jamais. Ce que vous avez, parfois, c'est des petits groupes d'élite, des petits groupes de gens qui sont très pervers localement, qui vont faire des choses comme Cotino, puisque semble-t-il qu'ils étaient plusieurs, d'autant plus qu'en plus maintenant ils peuvent se retrouver sur des réseaux sociaux. Pendant longtemps c'était plus compliqué, hein, de former des groupes comme ça pour se rencontrer anonymement, pour partager des horreurs. Bon, c'était quand même se mettre très fortement en danger. Mais voilà, ça ne dépasse pas un certain stade. Vous aurez des personnalités même qui peuvent être très connues, avoir pignon sur rue, sur lesquelles, encore une fois, les choses, ce que je vous disais tout à l'heure, les choses ont fini tout d'un coup, quand ça sort, par dire « mais comment ça, tout le monde savait ?» Oui, mais alors déjà, vous aviez beaucoup de gens, déjà le mec, à ce moment-là, avait encore un effet de halo suffisant pour être dangereux, donc il intimidait, il faisait peur à des gens. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous complices, Ça veut juste dire qu'ils préféraient rester dans leur coin et pas intervenir. Hein. Vous savez, c'est ce qui arrive souvent aussi quand des gens sont agressés en public et les gens n'interviennent pas. Bon, ben, a fortiori, quand vous entendez dire que quelqu'un serait un gros pervers qui fait ceci, cela, eh ben, vous n'avez pas de preuves, vous ne le dites pas. Hein. Et quand vous osez dire certaines choses, comme avait fait, même si vous êtes un personnage éminent, comme avait fait Luc Ferry il y a quelque temps, ça ne vous empêche pas de pouvoir être emmerdé parce que, ben, comme vous ne pouvez pas dire de non, parce que vous savez que malgré tout, comme vous n'avez pas de preuves, vous risquez la diffamation, ben, vous finissez par vous taire et donc ça reste au stade de la rumeur. Et c'est comme ça qu'il y a eu des trucs, notamment sur Olivier Duhamel, par exemple, où on a fini par le savoir alors que c'était faux. Des fois, vous avez aussi des articles, comme celui qu'il y avait eu l'année dernière. Vous aviez beaucoup de gens qui avaient plongé là-dedans. Moi, j'avais dit, méfiez-vous, ça me paraît pas prouvé. Il y avait eu la série d'articles, c'était en Libération, je crois, sur les hommes de la rue du Bac, dans laquelle il était question qu'un certain nombre de personnages, dont Jean-François Revel, aurait violé une jeune femme qui témoignait depuis... Bon. Et il y avait une contre-enquête très intéressante qui a été faite par un journaliste qui montrait que, en réalité, sur Jean-François Revel et peut-être sur deux, trois autres, il n'y avait aucune preuve et même aucun élément. Et ce qui a fini par ressortir, c'est que le nom avait été mentionné par la victime, qu'il n'y avait aucune autre preuve de ça, mais qu'à la rédaction de Libération, ils avaient décidé de mettre ce nom-là, déjà parce qu'ils ne l'aimaient pas, parce que c'était un penseur de droite, et que, en fait, c'était le seul des mecs qui était connu dans la liste. Et donc, même si c'était celui sur lequel il y avait moins d'éléments, ben, ils le mettaient dans la liste parce que ça permettait de faire vendre du papier. Et ça a très bien fonctionné. Voilà. Et ça a mis des mois à sortir. Mais du coup, la mémoire de Jean-François Revel a été salie sans raison pendant plusieurs mois. Donc, il y a ça aussi. Il faut se méfier de ce genre de mécanique. Mais encore une fois, quand vous finissez par tomber sur les types, vous apercevez que Olivier Duhamel, ben, il y avait Olivier Duhamel, essentiellement. Sur les autres, bon, il y avait, semblait-il, une ambiance un peu malsaine autour de lui. Mais on n'a pas eu d'autres preuves sur d'autres personnages. Donc, il faut se. Donc, la grande cabale, si vous voulez. A priori, on pouvait se douter que les Epstein Files n'en dévoileraient pas. Et jusqu'ici, les documents ne tendent pas à démontrer que ça existe. Mais ils montrent d'autres choses, encore une fois. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là-dessus que je voudrais terminer là-dessus. Ça a un effet révélateur sur la société d'aujourd'hui. Quel est cet effet ? Je vous disais, et ça je vous en parle depuis quelques temps, j'avais fait plusieurs vidéos là-dessus, qu'on parle beaucoup du complotisme populaire, le fait d'imaginer que les élites complotent contre les gens pour le pouvoir, justement à travers ce genre de choses, que ce soit pour limiter les libertés, etc. Des fois c'est vrai, hein, je dis pas le contraire, mais un grand complot général est structuré depuis longtemps. Mais... Et on s'en défend, d'ailleurs vous aurez tout un tas de fact-checkers, n'est-ce pas, et de gens qui spécialisés dans le conspirationnisme qui lutteront contre ça. Et donc c'est le conspirationnisme sale, si vous voulez, c'est le conspirationnisme populaire, non autorisé, ridicule. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle de plus en plus le complotisme autorisé, hein. C'est celui qui voit par exemple la main des Russes derrière tout ce qui ne va pas aux élites, etc. Et ça fait des années que j'en parle, et j'ai même commencé à en parler avant l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire avant que la Russie devienne véritablement une obsession chez tout le monde. C'est le fait que les élites sont complotistes aussi. Elles sont devenues complotistes, elles ne l'étaient pas avant. Les gens étaient moins complotistes aussi avant dans la population, mais on voit que le mouvement s'est en fait nourri des deux côtés, et en même temps ces 30 dernières années, et ça vient illustrer justement ce dont je vous parlais, c'est-à-dire le fait qu'il y a un fossé véritablement entre les élites dirigeantes et la population, ce qui au point où chacun se met à développer son propre complotisme anti l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, la population considère que les élites complotent contre elle, et les élites considèrent que la population complote contre elle, d'une certaine manière. Alors, elles ne peuvent pas le penser comme ça. Et en fait, elles le pensent autrement. Elles pensent que quelqu'un utilise la population contre elles. C'est ça, le complotisme des élites. Complotisme des élites, ça se résume de manière très simple. Il suffit d'avoir des élites qui pensent que le peuple est idiot. Ce qui arrive dans tout régime non démocratique, Normalement, en démocratie, pour avoir une démocratie fonctionnelle, ou quand vous avez une démocratie fonctionnelle, vous partez du principe que le peuple est intelligent. C'est pour ça que vous êtes démocrate. Si vous pensez que le peuple est con, vous n'êtes pas démocrate. Vous êtes autre chose. Vous êtes technocrate ou autocrate, mais vous n'êtes pas démocrate. Bon. Et comme nous sommes peu à peu sortis de la démocratie dans un certain nombre de pays occidentaux, à mesure, le complotisme des élites s'est déployé. Alors qu'est-ce que c'est le complotisme des élites ? Ce qui est très intéressant, c'est que le complotisme élitiste, vous le trouvez à la fois chez Vladimir Poutine et chez les élites. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais parlé de poutinisation des esprits. Quelle est l'idée ? Et c'est très important parce que c'était déjà visible chez Poutine, par exemple, et chez un certain nombre de ses fans, avant que ça ne soit visible chez les élites occidentales. Donc on voit qu'elles, elles ont glissé vers ce qui était déjà un régime comme Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est quoi ? C'est un type qui vient d'un régime non démocratique qui était l'URSS, d'accord ? Et en URSS, on pense que le peuple a besoin d'être guidé par les élites. C'est normal, puisque c'est une forme d'ancien régime, l'URSS. Donc on pense que le peuple a besoin d'être guidé, et que, parce qu'il est idiot, et que le peuple ne fait rien de lui-même. Donc, soit même on est habitué à aller agiter le peuple à l'extérieur, hein, donc c'est avec des opérations de renseignement, d'influence, etc. Et on surveille l'ennemi qui vient faire des opérations d'influence chez nous et vient diriger le peuple chez nous, en fait. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, dans l'esprit de ce genre de fonctionnement, si le peuple commence à s'agiter chez vous, et en fait, c'est tous les dictateurs qui fonctionnent comme ça, hein, c'est toujours pareil, vous regarderez, si le peuple commence à s'agiter chez vous, c'est que quelqu'un qui vous veut du mal est en train de l'agiter. Donc c'est la théorie généralement de l'agent de l'étranger. Tout dictateur qui voit son peuple s'agiter, il dit ce sont des agitateurs étrangers. Vous voyez encore aujourd'hui avec les Iraniens par exemple, le peuple iranien va dans la rue, c'est la faute à qui ? C'est la faute à la CIA et au Mossad. Bon. Mais ça c'est déjà ce que disait Vladimir Poutine il y a des années, avec toute l'idée des révolutions de couleur. Le concept même de révolution de couleur tel qu'il a été répété, et qui a été repris par un certain nombre d'imbéciles en France, et en Europe, c'est l'idée que, en gros, la CIA a agité le peuple dans des endroits pour emmerder la Russie. C'est ça l'idée, hein, pour faire tomber des populations. Bon. Sans se mettre en tête que peut-être dans ces pays-là, les gens allaient s'agiter parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Si vous êtes historien d'homme et que vous suivez cette chaîne, vous connaissez le fonctionnement des sociétés. Et vous savez que quand un pays entre en révolution nationale, c'est qu'il a un certain nombre de caractères au sein de sa population qui font apparaître ce mouvement spontanément. En d'autres termes, la révolution française n'a pas eu lieu parce que les services secrets britanniques l'ont suscité. Même si à l'époque, ça a commencé avec l'abbé Baruel, avec l'idée que c'était les francs-maçons. Si c'était les francs-maçons, c'était peut-être un peu les Anglais. D'accord, très bien, mais dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il eu une révolution en Angleterre au XVIIe siècle, avant même que la franc-maçon n'existe de manière structurée ? La franc-maçonnerie. Il n'y avait pas de franc-maçonnerie en 1640 encore au Royaume-Uni. Ça se développe ensuite. Hein. Ça se développe dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Avant, il n'y en avait pas. Bon. Il n'y avait pas de franc-maçonnerie non plus dans la bohème hussite au XVe siècle. Hein. Donc, si vous voyez à chaque fois les mêmes déroulés, c'est parce que ce sont des phénomènes sociaux. Voilà. Qui se déroulent parce qu'ils doivent se dérouler, parce que le pays est arrivé à un certain stade d'évolution. Voilà. Et c'est la même chose pour l'Ukraine avec le Maïdan. Le Maïdan, de toute façon, vous regardez ce qui s'est passé au Maïdan, vous apercevez que c'est à peu près la même chose que ce qui s'est passé en Tunisie 3 ans avant. Bon, personne n'a dit qu'il y avait un énorme complot en Tunisie pour renverser Ben Ali. Par contre, pour renverser Yanukovych, oui, c'était un complot. Non, c'était pas un complot. C'est juste qu'il y a un endroit où la CIA a essayé d'aller bouger un peu parce qu'elle pouvait avoir des intérêts, effectivement, pour emmerder les Russes, peut-être. Mais c'est pas la CIA qui a déclenché la révolution. Et de manière générale, ce n'est pas un agent de l'étranger qui déclenche les révolutions. Il va essayer de tirer son épingle du jeu à l'intérieur, de faire en sorte que ça glisse au mieux de ses intérêts, mais pas plus que la partie adverse, si vous voulez. Donc il n'y a pas de déclenchement comme ça. Mais pour comprendre ça, il faut admettre une première chose, c'est qu'il y a une autonomie de l'action populaire. C'est-à-dire que les gens existent. Les gens sont des vrais gens. Les gens, des fois, peuvent en avoir plein le cul de leur gouvernement et d'essayer de descendre dans la rue parce qu'ils en ont plein le cul de leur gouvernement. Et ça, c'est classique. D'accord ? C'est tout simple et tout bête à dire. Mais la pensée du complotisme élitiste n'admet pas ça. parce qu'elle considère que les gens sont juste des moutons qui ont besoin d'un berger. Le berger, c'est vous, d'accord ? Et si jamais les moutons s'agitent un peu trop, c'est qu'il y a un loup au milieu. Et donc, il faut chasser le loup. Il n'y a pas l'idée que les moutons en ont juste, juste marre de ta tronche. Bon. Et ça, c'est une vision d'autocrate, encore une fois. Classique. Et il faut bien se souvenir qu'à l'époque où ont lieu la plupart des révolutions de couleur, d'ailleurs, toutes les élites, quel était le réflexe des élites occidentales quand elles voyaient justement ce discours apparaître sur les révolutions de couleur, c'est la CIA et tout, c'est-à-dire, mais non, c'est n'importe quoi, écoutez votre population, elle en a juste marre. Et c'était juste. Bon. Mais nos élites, elles ont arrêté de penser comme ça. Petit à petit, elles se sont mises à penser comme Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que petit à petit, elles-mêmes ont été de plus en plus autoritaires envers les peuples occidentaux. Elles-mêmes se sont mises de plus en plus à douter de la démocratie. Elles-mêmes ont raisonné de plus en plus dans leur régime centriste, ce qu'on appelait l'extrême centre, par exemple. Moi, ce que j'appelle la coalition conformiste. Et à partir de là, elles ont commencé à réfléchir comme tous les pouvoirs autoritaires, c'est-à-dire en considérant que s'il se passait quelque chose, c'était leurs ennemis. Et pour moi, le moment véritablement de bascule un petit peu de ça, ça a été les Gilets jaunes, parce que c'est là qu'on a commencé véritablement à parler de manipulation russe derrière les Gilets jaunes, avec l'idée qu'en fait, c'était Poutine qui nous faisait, qui essayait de nous faire une sorte de révolution de couleur, mais chez nous. Mais ça veut dire que vous commenciez à admettre le concept et vous commenciez à admettre que si la population française descendait sur le rond-point, c'est qu'elle était manipulée et pas qu'elle en avait plein le cul. Parce qu'ici, on est en démocratie. Comment le peuple pourra en avoir plein le cul ? Ben si, justement, parce qu'on est un peu sorti de la démocratie. À cause de tout un tas de choses qui sont passées depuis 20 ans. Mais les élites sont incapables de le comprendre. Et donc, vous avez ce développement du complotisme élitiste, et donc depuis 15 ans, vous avez un autoritarisme des élites à l'échelle européenne, en particulier en France, qui s'accroît, et on le voit avec Emmanuel Macron, le contrôle des réseaux sociaux, etc. Et à mesure que ça s'accroît, tout mécontentement populaire est de plus en plus analysé, sur les réseaux sociaux, etc., comme une manipulation russe. On parle pas trop des Chinois, pour être Chinois aussi, mais essentiellement, on met ça sur le dos des Russes. Alors, il est évident que les Russes, eux, essaient de nourrir cette agitation, puisque c'est leur intérêt personnel, comme la CIA est allée nourrir les révoltés du Maïdan. C'est la même idée, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui créent le mouvement. Le mouvement, il est autonome, il est spontané, il vient de la population. Bien. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que jusqu'ici, depuis donc 15 ans, vous aviez d'un côté le complotisme populaire, qui est ils cherchent à nous emprisonner, ils cherchent à diminuer nos droits, ils ont fait exprès pour la pandémie, etc. Ce qui n'est pas vrai, ils n'ont pas fait exprès pour la pandémie. Ils ont fait exprès pour un certain nombre de mesures à l'occasion de la pandémie, ça c'est sûr. Le contrôle sanitaire, etc., sans doute, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est plus l'occasion qui a fait le larron. Mais ça a été là. Mais de l'autre côté, chaque fois qu'il y avait une opposition qui apparaissait, comme je vous disais, les Gilets jaunes ou un certain nombre d'autres mouvements, c'était la faute des Russes. Voilà. En Roumanie, en truc partout, c'est les Russes qui sont derrière. C'est pas la population. Et si c'est pas la population, c'est ça aussi. Si c'est pas la population, vous pouvez réagir autoritairement tout en disant toujours que vous êtes un démocrate, puisque c'est pas au peuple que vous en prenez. Vous en prenez à ceux qui essayent d'égarer le peuple. Mais le résultat est le même. Le dictateur qui dit que c'est l'agent de l'étranger qui vient agiter son peuple, les mollahs qui tirent sur la foule en Iran ne disent pas autre chose. Ils disent « je m'en prends pas à mon peuple, je m'en prends aux agents de l'étranger qui viennent essayer d'agiter mon peuple contre moi, alors que jamais mon peuple ne ferait ça autrement, parce que mon peuple ne peut pas en avoir plein le cul de moi, puisque je fais tout bien, n'est-ce pas ?» Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, c'était chacun à chaque fois avait son complot, et en face, l'autre qui disait, mais c'est des conneries, ce complot n'existe pas. Donc, quand c'était la population qui disait, c'est un complot, la pandémie, c'est un complot contre nous, etc., le vaccin, tout ça, c'est un complot, les élites disaient, mais non, arrêtez vos conneries, c'est pas un complot, on essaie de gérer la situation. Bon. Et quand les élites disaient, ah, c'est les Russes qui poussent à dire ça, etc., la population disait, mais oh, justement, c'est devenu un mème, c'est les Russes, avec le médicament, vous savez. Mais non, c'est n'importe quoi, vous délirez, c'est pas les Russes, là, c'est juste qu'on a marre de vos gueules, que Macron est nul, etc. C'est ça l'idée. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que là, on est en train d'entrer dans une autre phase encore avec les Epstein Files. C'est que depuis quelques jours, il y a à la fois, alors, tous les conspirationnistes d'Epstein qui bondissent sur lui en disant qu'ils avaient raison. Regardez, ça prouve exactement tout ce qu'on dit, ce qui n'est pas vraiment vrai. Ça peut être vrai sur certains petits points, mais ça, je dirais encore une fois, la grosse liste n'est pas là, le gros complot général n'est pas là non plus. Mais malgré tout, ils essaient de dire, regardez, le complot des élites est bien là. La preuve, vous voyez, il y a eu des emails Macron aller chercher des conseils. Il y a Jack Lang, chez nous, c'est un peu lui qui sert de point de fixation. Il y a Jack Lang chez nous. Ailleurs, il y a un tel, etc. Il y a Mandelson, pour le coup, c'est vrai, au Royaume-Uni. Donc, c'est bien la preuve que il y a complot autour d'Epstein contre la population. Et donc, il faut virer tous ces gens. Mais de l'autre côté, ça c'est intéressant, vous voyez émerger le narratif qui n'est pas de dire « mais non, il n'y a toujours pas de complot Epstein », ce qui, avant la publication des documents, était quand même le discours dominant. Non, non, le discours dominant maintenant, c'est « alors oui, il y a un complot, oui, il y a un complot Epstein, mais c'est un complot russe ». Et là, vous voyez des journalistes en parler, j'ai vu Titelman en parler aussi, je trouve ça absolument délirant, je veux dire, expliquer que « regardez, en fait, aha ». En fait, non. Oui, il y a bien un complot. Oui, il y a bien des Epstein Files avec tout un tas de trucs. Mais en fait, c'était quoi? En fait, c'est parce que Epstein est un agent de Poutine et qu'il a été utilisé pour corrompre tout un tas d'élites en Europe. Haha. Et donc, c'est Poutine. Et donc, vous avez la guerre des complotismes. Le complotisme contre le complotisme. Est-ce que Epstein, autour d'Epstein, il y a un complot contre la population occidentale de la part de l'establishment? Ou est-ce que autour d'Epstein, il y a un complot contre l'establishment de la part de Vladimir Poutine? Vous voyez? C'est ça, le et ça, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est le gros truc révélateur. C'est ça qui me donne vraiment envie de parler de cette affaire. C'est que c'est la poussée jusqu'au bout, si vous voulez, de cette logique de la montée du complotisme de gauche, enfin, pas de gauche, le complotisme populaire et du complotisme élitiste. Qui s'affrontent là-dedans. Et alors, bien sûr, vous trouverez sans doute des liens d'Epstein avec la Russie, notamment parce qu'il a cherché à avoir des liens dans les élites un peu partout, et que pendant longtemps, c'était possible aussi de se projeter en direction de la Russie, notamment dans les années 90-2000, mais aussi parce que quand vous cherchiez à faire des réseaux dans lesquels vous alliez rechercher des prostituées mineures relativement en masse, quand vous voyez l'ampleur de ces réseaux et que vous voulez des jeunes femmes blanches, européennes, c'est clair qu'à partir des années 90, vous alliez dans les deux pays, alors c'est peut-être aussi en direction des Balkans un peu, mais essentiellement dans les deux pays d'Europe, du continent européen, blanc, qui étaient les plus corrompus du continent, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. Où vous aviez de la mafia, où vous aviez les jeunes femmes, ce qui était des pays qui n'allaient pas bien du tout économiquement, où donc vous aviez des femmes qui étaient très prêtes à se prostituer, hein, si vous voulez, des femmes qui se prostituent, vous allez dans des pays extrêmement pauvres où elles n'ont pas de quoi bouffer, hein. Là, vous serez sûr que vous trouverez des gens, femmes qui se prostituent, vous exploitez la misère, mais c'est comme ça, c'est le principe. Et donc c'est normal, ça ne veut pas dire, et il est vraisemblable d'ailleurs, ça ne le nions pas non plus, que les Russes aient essayé d'utiliser eux-mêmes Epstein, puisque ce genre d'escroc essaiera toujours aussi de bouffer à tous les râteliers et de se faire exploiter, d'avoir des liens avec les différents services secrets pour vendre ses services et obtenir des protections. Hein. C'est aussi toujours ça le but. Hein. Ça fait partie du... C'est la même chose que d'avoir un banquier dans sa manche. Bon, c'est un autre type d'atout. Et donc il va être allé chercher là-bas. Mais ça ne fait pas de lui et de toute l'affaire Epstein, si vous voulez. En cohérence, vous ne pouvez pas imaginer que ça fait de toute l'affaire Epstein la démonstration d'un complot de Vladimir Poutine. Et alors, le truc le plus extraordinaire, c'est que il y avait cette femme, comment elle s'appelle, Van... Attendez, je ne l'ai pas trouvé. Je crois que je me la suis mis en fond. Non, je ne sais plus. Van Rentergem, là, la journaliste, grand reporter, qui explique carrément, alors là, c'est le top du top du truc, c'est que, en fait, les dossiers Epstein prouvent que, alors c'est extraordinaire, comme ces dossiers font tomber en fait un ancien commissaire européen et ambassadeur britannique à Washington, Peter Mandelson, pour des raisons de délit d'initié, eh bien ça montre que c'est un compromat russe qui est fait pour justement pouvoir fragiliser les élites européennes, et donc c'est la preuve que Donald Trump est le complice de Poutine. Et elle le dit comme ça. C'est complètement délirant. Ça n'a absolument aucun sens, évidemment. Mais il faut s'attendre, je pense, à voir se déployer ce discours, de plus en plus. Pourquoi ? Parce que vous aurez tout un tas de membres ou de soutiens de l'establishment qui ne sont pas prêts à reconnaître les turpitudes de leur milieu, pas prêts à reconnaître qu'une bonne partie, et c'est tout le problème de cette radicalisation dont je parlais, qu'une bonne partie des critiques qui sont émises à l'encontre de l'establishment sont valables, et qui font qu'il a besoin d'une purge, en fait. Et donc, ils vont s'enfermer de plus en plus dans cette idée que tout est de la faute des Russes. Et je vais pousser le truc jusqu'au bout, parce qu'il faut terminer là-dessus, mais c'est quand même très important. Stratégiquement et géostratégiquement, cette affaire a des répercussions. Pourquoi ? Mais parce que si on est au bord, et vous savez pour me suivre que je pense que c'est à peu près le cas, au bord d'une confrontation militaire directe, entre l'OTAN et la Russie, ou à tout le moins, l'Europe et la Russie. Si vous avez... Ça fait un moment que je vous parle de la lézarde, de la fracture qu'il y a à l'intérieur de la société européenne sur cette question-là. Et je vous ai dit qu'un pays qui entre en guerre avec une telle fracture à l'intérieur est extrêmement en danger. Parce que si vous avez toute une partie de la population qui préfère perdre la guerre, si ça peut lui permettre de se débarrasser de ses élites... plutôt que de chercher à gagner la guerre par nationalisme au prix de devoir garder les mêmes élites, ben à ce moment-là, ça vous met dans une très mauvaise position et vous risquez de terminer comme la Russie en 1917, c'est-à-dire avec une révolution interne, ou l'Allemagne. Et vous allez perdre la guerre parce qu'à l'intérieur, ça va lâcher. Parce que les gens vous diront « Non, non, on vous croit pas ». Et le problème, c'est que les élites sont en train de plus en plus, en Europe, d'utiliser comme épouvantail et comme... abcès de fixation de la totalité de ce qui leur arrive de mal, l'ennemi contre lequel ils voudraient envoyer le peuple, finalement. Tout en accusant le peuple d'être manipulé par cet ennemi. C'est extrêmement dangereux. Et à ce niveau-là, c'est presque de l'irresponsabilité, d'ailleurs. Mais on en est là. Et je crains que ce dossier Epstein ne fasse encore que renforcer ça. Et parce que, clairement... Si sur ce dossier-là, honnêtement, c'est ce à quoi je m'attendais le moins. Cette espèce de paranoïa, je n'avais pas vu venir. Hein. Le complotisme des élites, j'en parle depuis un moment. Mais je pensais que sur Epstein, les gens minimiseraient. Pas qu'ils basculeraient dans le « Oh là là, c'est une catastrophe !» Parce qu'on sent véritablement une espèce de panique. De panique en expliquant que, c'est Vladimir Poutine qui nous a eus. C'est terrible. Il va nous démonter. La première victime de ça, ce sera peut-être Keir Starmer, qui, semble-t-il, est le premier homme politique occidental à être mis véritablement en difficulté à cause de cette affaire. Notamment parce qu'il a eu... Bon, ça fait un moment qu'on sait à quel point il est impopulaire. Je rappelle qu'en raison du système, je renvoie aux émissions que j'avais fait là-dessus, en raison du système de scrutin britannique, il a les deux tiers des sièges avec seulement un tiers des voix, donc en réalité il n'est pas mieux élu et pas mieux loti parlementairement que Macron, sauf que c'est comme s'il avait grosso modo le même soutien que Macron a au Parlement, mais avec le pouvoir absolu au Parlement, la majorité absolue. Bon. Donc vous doutez que forcément dans le pays c'est ressenti comme une espèce d'escroquerie. Donc vous avez ce Keir Starmer à cause de l'affaire Mandelson. Et encore une fois, l'affaire Mandelson, on insiste sur le fait que c'est l'ambassadeur britannique, mais c'est aussi un ancien membre de la Commission européenne. Donc par ricochet, si vous voulez, ça fait quand même du mal sur l'Europe et sur le sérieux des élites européennes. C'est sans doute pour ça aussi que la panique est telle. Keir Starmer est fragilisé. Si Keir Starmer tombe là-dessus, ça peut être intéressant aussi en France. Parce que bon, pour l'instant, il n'y a rien de très direct à l'encontre de Macron. Mais on peut faire un petit peu le même reproche à Macron qu'on a fait à Starmer à propos de Jack Lang. Pourquoi ça fait 10 ans que tu nous le maintiens à la tête de l'Institut du Monde Arabe alors qu'on sait à quel point le type est corrompu? Et quand on voit les liens qu'il a avec Epstein. Elle n'est peut-être pas exactement au niveau de l'affaire Mandelson, mais quand même, hein, ça sort dans la presse et vous avez tout un tas de journaux, même Le Parisien, etc., qui ne sont pas des journaux conspi, qui commencent à taper assez sérieux sur Jack Lang. Hein. Ça commence à sortir. Et ça fait partie des choses qui, par ricochet, peuvent finir par mettre en difficulté encore un petit peu plus Emmanuel Macron. Alors qu'en plus, on va vers les municipales, que la question du budget a été évacuée. Donc maintenant, ils sont libres pour éventuellement essayer de redéstabiliser Macron, notamment Édouard Philippe, je rappelle, qui ne cherche qu'à le faire tomber. Donc il n'est pas impossible que, relativement du jour au lendemain, on se trouve aussi avec un Macron, parce que bon, c'est quand même marrant, Macron, je disais tout à l'heure dans 20 minutes, on nous dit qu'il est remonté à 16% d'intention d'opinion favorable. C'est extraordinaire, c'est presque un succès, vous voyez. Keir Starmer, il est à 19% et il est au bord d'être éjecté. Et il faudrait se féliciter que Emmanuel Macron est à 16%, c'est absolument délirant. En même temps, on a les tensions qui ont augmenté avec la Russie. Et puis, et ça risque de pas s'arranger d'ailleurs, en raison de la situation stratégique globale. Donc, et puis vous avez tout le mouvement, qui est peut-être à un pic d'ailleurs, de tentatives d'écrasement des réseaux sociaux partout. Avec l'interdiction au moins de 15 ans, qui en réalité est une interdiction à tout le monde dans le mode d'accès libre qui est celui actuel. C'est ça la réalité fondamentale. Avec l'idée qu'il va falloir lutter contre, de plus en plus contre les contenus, avec la perquisition chez X, etc., on approche quand même de quelque chose qui ressemble véritablement à un état de tension maximale et qui risque disons, qui est plutôt cohérent avec l'évolution générale, mais surtout qui risque de, comment dire, de devenir... d'atteindre son paroxysme en même temps que la confrontation géostratégique éclatera. Et donc on aura une faille à l'intérieur du système qui, me paraît-il, le rendra extrêmement fragile à ce genre de tension. Voilà comment j'interprète et comment je vois le rôle de cette affaire Epstein actuellement. Encore une fois, je vous le disais, si vous faites le parallèle avec l'hôpital général de Paris, ben ça vous, d'une certaine manière, dans la marche rouge, il y avait déjà un avant-goût des sans-culottes et un avant-goût de la guillotine. Hein. Et peut-être que dans l'affaire Epstein, ça reviendra aussi comme un prodrome de la révolution européenne. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors, je vais regarder s'il y a des questions dons avant de basculer dans le live privé. J'insiste encore un petit peu, hein, n'hésitez pas à mettre des pouces, extrêmement important hein, pour la diffusion, notamment en interne dans la chaîne. Et je rappelle aux éventuels nouveaux arrivants qui n'ont pas la cloche activée, de l'activer, c'est très important pour les stats aussi. On dit bonjour à Carciofo17, nouveau membre Maître Historionum, merci. Théorème de Gudule, merci pour le don, qui dit « Moi, je doute de plus en plus, cette histoire, c'est vraiment trop une accumulation de clichés de romans bas de gamme. » Ben, il y en a sans doute. Vous savez, moi, c'est aussi pour ça que je vous disais que j'essaie toujours de prendre un petit peu de recul et d'aller chercher des exemples historiques. Je vous avais expliqué que je faisais la même chose à l'époque dans une vieille émission que j'avais fait sur la question du changement climatique, dont on entend très peu parler d'ailleurs par rapport à ce que c'était le cas il y a encore un an, mais c'était sur le parallèle avec ce qui ne nie pas le phénomène en soi, mais sur le parallèle avec certains emballements religieux sur certaines questions à des époques similaires, parce que quand vous êtes incapable de vous prononcer sur le fond du débat, pour vous aider, je pense qu'aller chercher une analogie sur un autre débat sur lequel les choses sont assez tranchées, c'est un bon moyen d'essayer de faire basculer la raison d'un côté ou de l'autre, je pense. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire ce soir. Ça n'exclut pas encore une fois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être vrais, mais il faut se détacher de tout le fantasme. Et encore une fois, dans ce type de situation politique, avec souci, je disais presque eschatologique au sens religieux, c'est-à-dire le fait que vous savez, la rupture de fin du monde, c'est-à-dire que tout d'un coup tout change, et on va arriver dans le paradis parce que les méchants seront virés, en fait, hein, c'est ça. Et on sait qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'eschatologie. L'eschatologie dans la vraie vie, ça ne peut pas exister parce que le mal est en chaque personne et le mal est diffus dans la société. Il n'y a pas du mal dans le monde parce qu'il y a des méchants et qu'il y a des gentils. Sinon, si vous considérez ça, ça veut dire qu'il suffit d'exterminer les méchants. Et en général, ça amène à faire plus de mal que de bien. Hein. C'est le bon grain est livré, j'en parlais la semaine dernière dans le live privé. Jésus a dit c'est pas bien, faut pas le faire. C'est pas à vous de trier le bon grain de livré. Bon. Il y a le même souci. Mais dans ce combat eschatologique, c'est vraiment la vision dont c'est tranché. Et quand c'est cherché, quand vous avez les gens qui commencent à développer de plus en plus massivement et que ça a beaucoup de succès, ces visions eschatologiques, c'est que vous êtes arrivé à un moment de tension politique majeure dans laquelle l'establishment, les élites, sont profondément délégitimées au sein du peuple. Et si les élites elles-mêmes se mettent à penser des trucs inversement à l'encontre du peuple, c'est que vous approchez du point de rupture. On remercie Martin qui nous a rejoint comme maître historionome. On remercie Quentin qui en a fait autant. Nous avons une petite question choir transmise par l'Iroumissime. Ce qui est choquant, c'est la réaction des fact-checkers. Ils s'inquiètent du fait que les complots puissent trouver du grain à moudre, mais les victimes, on s'en fout apparemment. On a une affaire énorme, mais ils veulent essayer de rien savoir, de trouver des nuances, c'est navrant. Mais c'est exactement le problème du fait que les gens ont pris un parti pris politique dans cette histoire-là. Et ça relève de ce que je disais, de cette radicalisation, où le plus important, c'est plus de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est de savoir si ça sert le narratif adverse ou pas. Et quand vous êtes uniquement dans ça comme clivage, c'est-à-dire est-ce que ça sert mon camp ou est-ce que ça le dessert, ça veut dire que vous considérez que votre camp, c'est le bien de toute façon et qu'il ne faut pas faire le jeu des méchants qui sont le camp d'en face. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez plus de dialogue parce que ça veut dire que vous refuserez systématiquement les critiques sur les gens à l'intérieur de votre camp, que vous mettrez toujours tout sous le boisseau, donc que vous laisserez se développer des problèmes internes extrêmement graves. Et en même temps, vous vous fermez à tout compromis politique puisque vous refusez d'écouter les accusations légitimes que les autres peuvent porter à votre camp. Et ça, c'est un signe effectivement de polarisation extrême politique, et en général il en sort rien de très bon quoi. Je remercie l'ami Rémi qui dit que c'était vraiment une excellente émission et qui se régale, j'en suis heureux. Et voilà. Suzanne Darber qui me dit il y a une panique morale dans la population, cela dit je pense que Keir Starmer n'est pas le premier à sauter, il y a un ministre tchèque qui a sauté aussi ainsi que la famille royale britannique et norvégienne. Alors je sais pas si la famille royale britannique a sauté dans son entier, il y a le prince Andrews qui a été éjecté, ils ont quand même coupé le membre pourri quoi. Ça a été correctement fait. Voilà, je vais aller jeter un coup d'œil dans le pour voir si on a eu des questions sur Tipeee. Ça va être le moment. Je vais lancer le compte à rebours pour voilà. Dans 5 minutes, nous allons passer dans la diffusion réservée aux membres. Donc, je vous dis tout de suite, vous laissez pas faire, hein, du coup, puisque je peux plus conclure la vidéo avec ça. Je vous salue bien, je vous remercie d'être venu. Je vous encourage encore une fois à pousser, à mettre une petite cloche, et si vous voulez nous rejoindre, ben, vous pouvez aller voir en cliquant sur le bouton rejoindre dessous, si ça vous intéresse, de nous rejoindre dans le live privé. La bascule va se faire toute seule, mais je vais commencer à répondre aux questions de membres tout de suite. Sans plus attendre, comme on dit. Alors, quelles sont les questions? Est-ce que nous avons... Ah oui, alors du coup, il faut que vous commenciez à vous poser vos questions maintenant. Du coup, j'aurais peut-être dû le préciser avant. Les membres, ce que vous faisiez d'habitude dans le live privé, la façon dont vous posez les questions. Alors, je crois qu'il y avait une question de forme où il fallait mettre un Q en taguant Iruma pour poser vos questions. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions. Alors, Hiruma, posez vos questions à Hiruma, n'hésitez pas, que je puisse répondre. Oui, comme le dit si bien Hiruma, je tiens à le préciser, je rappelle que les paliers de souscription donnent accès aussi au catalogue des anciens replays, parce que tous les lives privés, les super lives privés, etc. sont en replay. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez nous soutenir, mais que vous voulez limiter les moyens que vous y consacrez, vous pouvez aussi venir un mois par an et binge-watcher les trucs que vous avez de retard. Hein. Alors, première question. Ghislaine Maxwell, elle servait à quoi du coup? Déjà, alors je ne suis pas un spécialiste de l'affaire, mais d'une part, il me semble-t-il qu'il avait un rapport assez intime avec elle, et que d'autre part, elle lui servait de rabatteuse. C'est-à-dire que elle l'aidait à trouver, mais il semble-t-il qu'ils ont un petit peu vécu leur perversion à deux. Ah oui, désolé, il y a le ventilo de l'ordinateur qui s'est mis à souffler un peu, mais normalement on l'entendait pas d'habitude. Elle servait à quoi? Semble-t-il à aider Jeffrey quand il avait pas de chair fraîche sous la main déjà. Elle rendait service et puis elle lui servait effectivement de rabatteuse, ce qui est assez sinistre d'ailleurs parce qu'elle devait elle devait mettre en confiance les victimes qu'elle ramenait à Epstein, à Epstein, pardon. Je vais jamais y arriver. Pour Jack Lang, le seul fait qu'il ait plus de 80 ans pourrait justifier de l'éjecter de son poste. C'est pas faux. Moi, je suis toujours fasciné, mais là, avec Jack Lang, on est sur le même type de personnage d'une certaine manière qu'Epstein, c'est-à-dire un type qui s'est fait un tel réseau autour de lui qui semblait être quasiment intouchable. Il a su profiter du fait qu'il a quand même été ministre de la Culture pendant 10 ans pour régner sur toute une partie des petits milieux parisiens et s'y faire. S'y créer des fidélités ou en tout cas maximiser son halo, ce qui fait que personne n'a osé le toucher. Rien sur le Mossad. Le Mossad, moi je suis désolé, j'ai cherché un petit peu, il n'est pas impossible qu'il était en contact là-dedans, mais il n'y a pas de complot avéré du Mossad. Alors, il est plausible qu'un certain nombre de services secrets, encore une fois, comme je l'ai dit, aient utilisé ces réseaux pour obtenir des résultats. Mais à ce stade, je n'ai pas l'impression que les documents aient livré des preuves de quelque chose supplémentaire de ça. Ça a livré des indices sur la façon dont Epstein était bien avait une espèce d'arrogance comme ça en se montrant méprisant et raciste envers les goyims, mais au-delà de ça, ça peut servir un certain nombre de préjugés, mais ça matériellement, j'ai pas eu le sentiment que ça aille chercher plus.